Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, buissonnants, traversants, décalés. Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'onde musicale de ce lundi 19 janvier. Aujourd'hui, vous pourrez entendre un poète, un passionné. Il les traverse toutes, les traversières, celles de Pan. Et il est sublime, on est prêt à le suivre, comme vous savez, les rats et les enfants ont suivi le joueur de flûte de Hamelin. C'était peut-être pas pour les bonnes raisons. Lui, c'est Jean-Daniel Talma, facteur et joueur de flûte à la Bastide-sur-Besorgue, qui a créé l'atelier Elbock, un passionné, je vous disais, disciple de Jeff Barbe, qui arrive à nous enthousiasmer sur la flûte, puisque les collégiens que nous avons été n'ont pas que de bons souvenirs, en tout cas à moi, et qui surtout remet la notion du temps au cœur de la réalité. L'interview menée par Marie et enregistrée il y a quelques semaines était écoutée juste après... La bise à Sylvain.
Bonjour.
Et l'agenda. Non, en vrai, le joueur de flûte d'Hamelin, c'est plutôt celui qui va devoir répondre à la justice au tribunal de Privas à partir d'aujourd'hui, Gérard Pinède, alias Père Bernard Domini, le père supérieur de la famille missionnaire de Notre-Dame, installé à Saint-Pierre-de-Colombier, et qui est poursuivi pour abus de faiblesse par 5 personnes en lien avec la famille missionnaire de Notre-Dame. Les faits reprochés sont notamment un recrutement de membres jeunes, dont les conditions de vie seraient particulièrement contraignantes et sans aucun repos, afin d'altérer le jugement par épuisement physique. Également une culpabilisation de péché d'orgueil lorsque ces jeunes se posaient trop de questions sur la foi. Plus généralement, et pour une fois, si je puis dire, dans ce procès au long cours qui a été plusieurs fois repoussé, la question de la liberté religieuse et des nécessaires limites à son exercice, comme la protection des personnes, sera abordée. Un procès suivi sur le plan national et qui pourrait faire l'effet d'un MeToo des mouvements sectaires, selon François Jacquard, conseiller régional d'Ardèche il y a quelque temps, qui s'exprimait dans le Dauphiné libéré, car en cas de condamnation, dit-il, les familles des victimes verront que la justice peut agir. Ainsi soit-il. Abus de faiblesse, manipulation, c'est aussi dans l'actualité politique, mais cette fois avec prise de distance et humour. L'art d'avoir toujours raison. Méthode simple, rapide et infaillible pour avoir toujours raison. C'est le spectacle de la compagnie Cassandre qui sera présenté mercredi à 20h30 au théâtre de Vals-les-Bains, une conférence jubilatoire qui décortique la machine bien huilée des discours politiques. Une conférence plus vraie que nature, quoi. Et auditrices et auditeurs, vous avez de la chance car d'une part... Ainsi averti, vous pouvez résister aux sirènes ou aux flûtes maléfiques, mais aussi parce qu'on vous offre 2 places pour le spectacle, donc mercredi à 20h30 au théâtre de Vals. Pour cela, il vous suffit, enfin vous verrez, c'est pas si facile, il vous suffit d'envoyer un mail à contact@frequence7.net avec vos noms et prénoms, votre numéro de téléphone et la réponse à cette question. Quelle femme ou homme politique a déjà donné l'impression de ne pas toujours avoir raison? Ah, pas facile. Lancez-vous, tentez, vous verrez, ben oui. Allez, contact@frequence7.net. C'est peut-être une question pour ChatGPT, ça. Mais au fait, comment ça marche, ChatGPT, GPT? Demain de 18h à 19h à la médiathèque d'Aubenas, l'apéro IA qui vous est proposé semble être le bon moment pour poser la question et puis pour tester, débattre et s'éclairer mutuellement sur tous ces outils, donc pas évidemment que ChatGPT, mais tous les autres, tous les outils d'intelligence artificielle, dit-on, qui arrivent dans une ambiance détendue, déliée. C'est demain de 18h à 19h à la médiathèque d'Aubenas. On écoute maintenant tout de suite le choix de l'invité de la deuxième partie, Jean-Daniel Talma. C'est Le chemin de Mytilène, une composition du duo Mi-ombre, Mi-soleil, avec Zigrid Guillaume à l'accordéon diatonique et Solène Rio à la flûte, tambourine et tambour. C'est un rond de Saint-Vincent, un type de danse collective que l'on trouve en Bretagne, et le titre est tiré de leur album À deux. Thank you.
Jean-Daniel Talma, tu es facteur de flûte, facteur d'instrument avant, dans un atelier qui s'appelle Elbock, à la Bastide-sur-Besorgue. Qu'est-ce que tu fabriques et pour qui ?
Alors, c'est ça, je suis facteur de flûte et facteur de tambour aussi, même si ma principale activité, c'est quand même la flûte, et je suis venu au tambour par la flûte. Ça, j'expliquerai peut-être ça tout à l'heure.
Oui, parce que là, il y a une logique.
Donc, je fabrique des instruments qui sont de toutes les familles de flûtes, c'est-à-dire les flûtes à bec, les flûtes traversières, les flûtes obliques, les flûtes de pan, les flûtes qui sont faites dans des tubes ou dans des cavités. J'ai un catalogue qui est assez large et que je propose aux musiciens qui pratiquent surtout les musiques de tradition populaire et les musiques anciennes. Voilà, dans les musiques anciennes, je touche surtout les musiciens qui s'intéressent aux musiques médiévales et aux musiques de la Renaissance. Et dans les musiques de tradition populaire, j'ai cerné un peu mon travail en parlant des traditions de flûte de berger d'Europe de l'Ouest. Parce que il y a à l'est il y a énormément de flûtes qui sont travaillées comme moi je les travaille, c'est-à-dire aménagées dans des matériaux naturels, et que par contre ils ont des esthétiques sonores et une culture musicale qui est vraiment très très différente de ce que nous on a jusqu'au milieu de l'Allemagne. Voilà.
La façon de jouer,
les gammes aussi, les carrures rythmiques, tout ça, c'est vraiment très très différent de ce que nous on connaît, on va dire, en Espagne, dans le sud de la France, en France, dans toute la culture celtique, les pays scandinaves. En fait, il y a quelque chose de commun à l'Europe de l'Ouest. Et autre chose de commun à l'Europe de l'Est. Il y a vraiment, pour moi en tout cas, des esthétiques très différentes, surtout dans ce qui concerne les flûtes en tout cas.
Esthétique sonore,
esthétique visuelle bien sûr, mais une flûte c'est généralement au niveau visuel c'est pas très impactant, ça, c'est un tube avec des trous, même si on peut les décorer, mais...
Et alors c'est quoi ? C'est le son qui change ?
C'est le son qui change, voilà, le son et puis aussi les manières de jouer. Par exemple, il y a beaucoup de flûtes en Europe de l'Est où on chante en même temps dans l'instrument. Et on va appliquer certains paramètres de lutherie qui permettent facilement d'émettre le son quand on chante dedans. Paramètres de lutherie qui, nous, en Europe de l'Ouest, on fait assez rarement ça va nous sembler pas adapté pour une flûte, alors que ça marche très bien. Mais c'est chaque culture a une esthétique sonore, des couleurs, des dynamiques de jeu qui sont très différentes les unes des autres. C'est ça qui fait la richesse. Nous, en Europe de l'Ouest, on est sur certaines esthétiques qui sont assez différentes de ce qu'on trouve en Europe de l'Est. Voilà, alors dans mon travail, moi je travaille, quand je parle donc pour mes flûtes, de flûtes d'origine pastorale, pour marquer le fait que ces flûtes à l'origine sont fabriquées par les bergers. Je ne fais pas, par exemple, si on me demande une flûte en bois tourné, je la fabriquerai pas, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est de sculpter des flûtes dans des matériaux que je vais très peu ou pas transformer. Enfin, pas jamais, parce qu'on va toujours au moins percer un trou, mais en tout cas très peu. Ce que je veux dire, c'est que je vais m'appuyer sur la forme naturelle pour aménager mon instrument. Et cette pratique, en fait, c'est vraiment la pratique des flûtes d'origine pastorale, des flûtes de berger, Alors c'est peut-être un peu réducteur, pendant très longtemps c'était les bergers, mais pas que. Il y avait les ouvriers agricoles, les paysans, certains artisans en ville. Mais en tout cas, c'est une forme de lutherie qui est basée sur la pauvreté de moyens. Donc c'est un mot qui est très à la mode aujourd'hui, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec des outils très simples et un matériau qui coûte que dalle, on va pouvoir faire un instrument, voilà, qui est pas moins intéressant qu'un instrument qui est fait avec des machines. C'est juste une autre démarche.
Par exemple, parce que alors là, t'es vraiment intrigant. Ouais. Une corne.
Oui, voilà. Du coup, je vais fabriquer des flûtes dans des matériaux végétaux et des matériaux animaux. Les matériaux végétaux, c'est des branches d'arbres. Ça peut être du sureau, ça peut être du noisetier. Ça peut être de la lisier, ça peut être voilà, il y a plusieurs essences comme ça qui se prêtent bien pour fabriquer des flûtes avec sans machine, voilà. Et puis après il y a les matériaux animaux, là il va y avoir l'os et la corne. Et donc je vais aménager des flûtes dans des os, dans des cornes et dans des branches, voilà. Et ça peut être des flûtes à bec, ça peut être des flûtes doubles, triples, ça peut être des flûtes traversières. La famille de ce qu'on appelle les flûtes obliques, c'est-à-dire un tube avec une arête sur le bord duquel on va venir souffler, c'est un type de flûte qu'on trouve et surtout dans les cultures du Moyen-Orient et du sud de l'Europe, mais qu'on a aussi un petit peu par chez nous. Et puis aussi les flûtes de pan, voilà, les flûtes de pan qui sont fabriquées dans des planches. Moi je travaille pas le roseau, qui est un matériau qui est peut-être le matériau le plus adapté pour faire n'importe quelle flûte en fait. C'est le roseau, donc ce qu'on appelle la canne de Provence, qui sert à faire les anges de saxophone ou de clarinette ou de hautbois. Ce matériau, c'est vraiment un matériau musical qui est depuis la nuit des temps, c'est le matériau des instruments à vent. Par contre, ce matériau, ben, il est disponible que autour de la Méditerranée. Dès qu'on s'éloigne un peu, il fait plus assez chaud et on le trouve plus. Donc, du coup, on a adapté. Les musiciens ont cherché d'autres manières de faire. Et les branches, ben, le bois en premier lieu. C'est un matériau qui est aussi très très intéressant. Donc, en fait. C'est vrai que le roseau, c'est très facile de faire une flûte en roseau. En quelques minutes, on peut avoir un instrument parfait. En une dizaine de minutes, on peut se retrouver avec une flûte à bec, avec une flûte de pan qui fonctionne parfaitement bien. Dans le bois, dans la corne, dans l'os, c'est un petit peu plus long, mais ça se fait bien aussi, avec quelques couteaux.
Ça se fait bien, mais ça fait longtemps que tu en fais, et j'imagine que ça se fait bien si on sait faire, parce que sinon...
Ouais,
oui. Ah, ouais, quand même.
Alors, moi, j'ai eu la chance... C'est quand même... Ben, c'est sûr qu'en fait, plus le matériau est simple et moins on a d'outils, plus le fabricant, il doit user de la qualité de son savoir-faire et puis de son expérience en fait. C'est le savoir-faire qui fait tout. Le matériau est tellement simple que voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui s'acquiert. Ben, il n'y a pas de secret, c'est le temps en fait.
C'est ça.
Donc moi, ça fait longtemps que ça fait 25 ans que je fabrique des flûtes, et j'ai appris avec un maître qui est installé dans le sud de l'Ardèche, qui s'appelle Jeff Barbe. Voilà, peut-être, je suis sûr qu'il y en a plein qui le connaissent. Voilà, je suis venu en Ardèche grâce à ça, et j'y suis revenu parce que je m'y sentais bien. Et donc j'ai eu la chance d'apprendre avec un maître qui m'a transmis son savoir-faire de maître à élève, comme ça s'est fait pendant des millénaires. Mais on peut aussi apprendre en total autodidacte. C'est le parcours de mon maître, c'est celui-là par exemple. Donc c'est sûr que quand on a un maître, on va gagner du temps parce qu'il y a plein de galères, plein d'erreurs qu'on va pas faire. Voilà. Après cette lutherie, mon maître, il me l'a transmise par le meilleur chemin, à mon sens, pour y arriver, c'est l'apprentissage de l'essai-erreur, ce qu'on appelle aussi l'empirisme. En fait, cette lutherie-là, elle est toujours irrégulière, dans le sens où, en fait, on ne va jamais travailler avec un matériau qu'on a calibré, dont le dessin, dont les volumes sont toujours identiques. Et donc, du coup, ça nous demande une adaptabilité permanente. Et donc, en fait, le meilleur moyen pour comprendre comment t'adapter, c'est être confronté sans cesse à des problèmes différents. Et puis à essayer de les résoudre. Et donc, mon maître, c'est comme ça qu'il m'a appris. Il m'a pas dit, ben voilà, ça marche. Vas-y, fais ta flûte. Ah, là, c'est quelques millimètres, c'est à tel millimètre, tel centimètre. Ouvre ton tube comme ci, comme ça. Non, il m'a donné un morceau de roseau ou de bambou. Il m'a dit, vas-y, fais ta flûte. Ok, ben qu'est-ce que je fais en premier? Tu vas faire ça. Ok, ça marche pas. Ben, essaye d'autres choses. Vas-y, cherche. Et donc, du coup, en fait, moi, je cherchais. Et puis, au bout d'un moment, quand il avait estimé que j'avais assez cherché, il me disait, ben, peut-être si tu touches un petit peu à ce paramètre-là, vas-y, racle un peu de bois à cet endroit-là et tu vas voir. Ah ouais, ça marche. Et là, en fait, quand on a cherché pendant des heures et qu'on nous donne une petite partie de la solution, ben, c'est ancré complètement en nous-mêmes. Et donc, cet apprentissage basé sur l'empirisme, en fait, il est parfaitement adapté à une lutherie comme celle-là.
Parce que chaque pièce est unique.
Ouais. Toutes mes flûtes sont vraiment uniques, c'est-à-dire qu'il n'y en aura jamais une identique, quoi, c'est pas possible. C'est ça qui fait le charme de ces instruments.
Et toi, tu les fabriquais, tu savais entendre, parce que tu jouais déjà de la flûte, donc tu savais entendre si le résultat sonore était satisfaisant, enfin, à la hauteur de ce que tu voulais entendre ou pas.
Ouais.
Tu savais le manier, quoi, cet instrument.
Ouais, tout à fait. En tout cas, un minimum. On me pose souvent cette question-là. Moi, je dis, par exemple, j'ai beaucoup de mes collègues qui sont luthiers, qui fabriquent des violons, qui savent, pour certains, même pas jouer, même pas monter une gamme au violon, en fait. Parce que dans un instrument à cordes, on peut, avec si on a une sensibilité au son, si on est un artisan qui est un peu fin, qui comprend les réglages qui vont donner le son, on peut très bien fabriquer des instruments à cordes sans forcément savoir les jouer. En revanche, pour ce qui est des instruments à vent, bah en fait, si on souffle pas dans l'instrument, on peut pas connaître la réaction de l'instrument. Et c'est la réaction de l'instrument. On va la sentir, on va la ressentir à la manière dont il réagit à notre souffle. Et ça, en fait, même si quelqu'un d'autre souffle pour nous, ben on pourra jamais savoir aussi intimement comment ça fonctionne que si nous, on souffle nous-mêmes dans l'instrument. Donc pour tout ce qui est des instruments à vent, on est tous un minimum, en fait, déjà avec une pratique de l'instrument qui nous permet de comprendre les subtilités du jeu. Et donc, effectivement, moi, j'ai aucun collègue qui fabrique des instruments à vent qui ne sait pas jouer de l'instrument dont qu'il fabrique, quoi.
Mmh. Tu as dit que tu faisais aussi des flûtes pour des musiciens qui font de la musique médiévale, baroque, classique. Et comment tu sais que c'est la flûte du Moyen-Âge ?
Ah, alors, c'est une bonne question. Moi, je suis dans... Ben, je prends la continuité aussi de ce que m'a enseigné mon maître, mais, et puis de son envie aussi. Il m'a transmis le savoir-faire, mais il m'a transmis aussi un patrimoine, en fait, un type de flûte. Et puis aussi une démarche de recherche. Et donc, comme lui, je suis... alors, c'est pas moi qui m'ai donné ce titre-là, mais c'est un peu... C'est arrivé à force de participer à des événements autour de ça, mais je suis archéoluthier. C'est un terme qu'on utilise aussi pour dire que je reconstitue des instruments qui sont issus soit d'iconographie, soit d'artefacts. Donc les artefacts, c'est tout ce qu'on va retrouver dans la terre qui est de la main de l'homme. Donc là, ici, des artefacts musicaux.
Et iconographie ?
Et iconographie, ben, c'est tout ce qui est les images. Ça peut être les chapiteaux d'église, ça peut être des vitraux, ça peut être des manuscrits.
Des tapisseries.
Des tapisseries, ouais, tout à fait. Et donc, du coup, en fait, il y a toute cette recherche sur les premiers instruments que je mène depuis le début, en fait. Et qui me permet de proposer aussi des instruments qui sont, on va utiliser le terme sourcés, qui ont à des musiciens qui pratiquent ces musiques-là. Ou alors, parfois, c'est aussi des musées ou des musiciens qui vont venir directement à moi en me disant, ben, on aimerait bien reconstituer telle ou telle flûte. Et dans ce cas-là, ben, ils m'apportent le matériel scientifique, le matériel d'étude, et puis moi, je vais faire des propositions.
Est-ce que des fois, certains viennent en disant « je voudrais un son qui a cette matière, cette épaisseur, ce souffle, ce... » Oui ?
Ouais, tout à fait. Voilà. C'est ça aussi. Ben là, c'est une des grandes forces de l'artisan par rapport à l'industriel. Parce que des instruments à vent, ben, y a aussi des instruments à vent qui sont fabriqués par des manufactures ou même des très grands groupes. Nous, les artisans, en fait, et c'est pour ça qu'on continue à être sollicité et que notre métier ne disparaît pas, c'est qu'on va pouvoir répondre à des demandes qui sont très précises et très fines. Et oui, ça m'arrive d'avoir des musiciens qui viennent avec un cahier des charges sonore. À la fois pour la manière d'accorder l'instrument, et puis aussi l'esthétique du son, la couleur du son, sa personnalité, la personnalité sonore de l'instrument. Et là, ben, ça fait appel... en fait, c'est là où notre savoir-faire, il est c'est là où il est notre savoir-faire, en fait. Parce que moi, souvent, j'explique... parfois, j'organise des stages où on m'invite à donner des stages pour fabriquer des flûtes. Et en fait, ce que j'explique aux stagiaires, c'est que en fait, ce qui est le plus difficile, c'est de... N'importe qui peut faire une flûte s'il est bien bon bricoleur. C'est pas très compliqué, en vérité, de fabriquer même une guitare ou un violon. Un bon ébéniste qui prend le temps, il va y arriver, il n'y a pas de souci. Même un bon bricoleur du dimanche. Par contre, là où vraiment se situe notre savoir-faire, c'est quels vont être tous les petits paramètres auxquels on va pouvoir toucher pour donner tel ou tel son, telle couleur sonore. Et là, ça devient pointu, et là, ça devient intéressant. C'est-à-dire que des bons bois, les luthiers, les facteurs d'instruments, souvent, on sait travailler le bois, on a de la technicité, mais parfois, on en a beaucoup moins qu'un ébéniste ou un menuisier, en fait. Parce qu'en fait, le cœur de notre travail, c'est pas le travail de la matière, c'est le travail de la matière sonore. Voilà.
Le bon geste qui va faire le bon son.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tout à fait. Alors après, ben, bien sûr, le cahier des charges, il peut être... comment dire ? On peut faire une très bonne flûte, une très bonne première flûte, sans savoir ce qu'on fait, et puis ça va bien marcher. Et au contraire, on peut passer des heures sur une flûte, et finalement la laisser tomber, parce que... ben, elle est finalement pas intéressante. Tout ça, c'est aussi le lien qu'on va entretenir avec le matériau.
Et oui.
Comprendre le matériau dans sa finesse, c'est un autre paramètre qui est important dans ce métier. C'est bien ressentir la matière, bien comprendre la matière. Pour son aspect de travail technique, enfin le travail technique qu'on va faire sur elle, et puis après pour le travail sonore. On peut faire des flûtes, en fait il y a plein de qualités de bois différentes qui peuvent permettre de faire des flûtes, mais chacune va donner une couleur de son personnalité à l'instrument qui est différente.
C'est ça, oui. Une dernière question, peut-être. Combien de temps il faut pour faire une flûte?
Ça, c'est une question récurrente. Moi, je peux faire
Parce
une
que
flûte
tout à l'heure,
en.
T'as dit 10 minutes.
C'est ça, on peut faire une flûte en 5-10 minutes qui marchera très très bien. Même moins que ça. Hein. On peut faire un fifre en roseau avec un fer chaud. En 5-10 minutes, la flûte, elle est faite et elle peut très très bien fonctionner. Voilà, après, en fait, il y a des instruments qui sont aussi beaucoup plus complexes. Moi, l'instrument que je fabrique qui est le plus difficile à faire, c'est dans mon catalogue, c'est les triples flûtes. Où là, en fait, il va falloir affiner et puis régler trois sifflets qui doivent fonctionner parfaitement ensemble, à la même pression de souffle, en ouvrant différents trous, ben on va avoir des pressions différentes. Donc, enfin, bref, c'est un instrument qui est très complexe à réaliser. Et là, c'est au minimum un mois de travail. Mais pour les instruments de ma production courante, moi, je suis entre une douzaine et une vingtaine d'heures pour les modèles les plus courants, quoi.
D'accord.
Donc, c'est assez rapide par rapport à un violon ou une guitare. C'est très rapide.
Oui, d'accord, quand même une douzaine d'heures, c'est... Oui, il faut le travail de le faire. La dernière, t'as dit de la flûte, t'es passé à la percussion. Alors là, ça m'intrigue.
Ouais, alors en fait...
C'est, ça, c'est dans... pas la même membrane qui vibre quand même.
Alors déjà, le tambour et la flûte sont des vieux compagnons de route depuis longtemps. Quand on brasse l'iconographie ancienne, on voit toujours, enfin très souvent, la flûte avec le tambour. Mais en fait, pourquoi je suis venu au tambour, c'est que dans mon catalogue, j'ai des flûtes qu'on appelle les flûtes tambourines ou les flûtes à trois trous, qui sont des instruments des traditions populaires et puis qu'on trouve aussi très très largement répandus partout au Moyen-Âge. Et ces flûtes, c'est des flûtes qui vont, donc comme leur nom l'indique, qui ont trois trous. Et avec ces trois trous, on va pouvoir jouer l'étendue d'une octave et demie à peu près, donc déjà pas mal de notes. Et on va jamais jouer. Ça permet du coup de jouer la flûte avec une seule main et avec l'autre main de jouer un tambour. Voilà, c'est les traditions qu'on va trouver dans tout le sud de la France, depuis le Pays Basque jusqu'à la Provence, et puis aussi beaucoup en Espagne. Et en fait, à force de fabriquer des flûtes tambourines, les musiciens qui m'achetaient ces instruments cherchaient toujours des tambours et arrivaient du mal à en trouver, en tout cas en France. Et j'ai commencé à faire des tambours, voilà, pour accompagner
les
flûtes.
Voilà le secret de la flûte à trois trous et au tambour. C'est vrai, après tout, on a une main droite, une main gauche. Alors une
tout
sur la
fait.
Flûte et l'autre sur le tambour. Et comment on le tient? Bon, ça, on en parlera une autre fois. Donc, où est ton atelier? Où est-ce qu'on peut acheter des flûtes?
Alors, moi, je suis installé à Labastide-sur-Besorgue. Donc dans la vallée de la Besorgue, comme son nom l'indique, pas très loin d'Entraigues-sur-Volanne, voilà. Et donc vous pouvez trouver aussi mon catalogue sur le net à www.elbock.fr, ça s'écrit E-L-B-O-C-K, voilà. Et après, si vous voulez, si vous êtes passionné, si vous vous intéressez à la flûte, vous pouvez aussi retrouver plein d'infos sur un podcast que j'ai créé avec une amie qui s'appelle Les souffles partagés, souffles et partagés au pluriel. Et donc, dans ce podcast qui est dédié aux flûtes dans le monde, on parle de flûte et on vous explique tout sur toutes les flûtes. Voilà.
Donc ça pour tout savoir et pour les acheter, soit à ton atelier, soit en ligne, on te contacte.
Exactement.
Et on trouve les flûtes. Merci beaucoup Jean-Daniel.
Merci
pour
Marie.
Pour toutes ces explications et ces secrets et ces trésors de son et d'atmosphère. Et à bientôt.
À bientôt.
Et merci Marie pour l'interview et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, restez à l'écoute de Fréquence 7 puisque à 13h vous retrouvez Sam Travail, à 16h l'Imaginoire, à 17h l'Onde Curieuse, la rediffusion, à 18h Solidaire d'abord, à 18h45, Central Park, sur le sentier qui pétille. Cette petite boucle réaménagée dans les jardins de la Maison du Parc à Jaugeac est accessible à tous. À 19h, bah, vous retrouvez Marie pour Tu danses, à 20h, chez Tonton, et à 21h, Hexagone Live, consacré ce soir à la chanteuse Juliette Bande de Vénard, avec la diffusion du concert de mai 2005 au Grand Rex à Paris. C'était pour l'album Mutantis Mutandis, et elle était entourée de plein d'invités. Sonnez tambours et trompettes.